les podcasts de Radio Vatican.
Outre la crise diplomatique entre la Malaisie et la Corée du Nord, consécutive à l'assassinat du frère du président nord-coréen à l'aéroport de Kuala Lumpur le 13 février dernier, le régime de Pyongyang est revenu cette semaine au cœur de l'actualité internationale à l'occasion de nouvelles démonstrations de forces militaires. Les tirs ce lundi de 4 missiles, dont 3 sont tombés près du Japon, ont provoqué un nouveau regain de tension autour de la péninsule coréenne, alors que Washington et Séoul mènent actuellement des exercices conjoints de grande ampleur. Ces événements relativement récurrents ne sont toutefois pas nouveau. L'an dernier, la Corée du Nord avait effectué 24 essais de cette nature sans faire de victimes. Ils s'intègrent dans un rapport de force dans lequel les États-Unis tirent leur épingle du jeu, paradoxalement, en légitimant leur présence militaire en Asie au nom de la protection du Japon et de la Corée du Sud contre le bellicisme de Pyongyang. La Chine, elle, persiste dans son alliance avec la Corée du Nord, quitte à en modérer les ardeurs en s'associant à certaines sanctions onusiennes. Marie-Orange Rivelassan, maître de conférence en études coréennes à l'Université Paris 7, nous explique le contexte de ces tirs de missiles.
Ces lancements de missiles sont généralement faits dans un cadre particulier, finalement assez prévisible. En ce moment, il y a des manœuvres militaires conjointes qui ont commencé comme prévu il y a quelques jours avec des soldats américains et sud-coréens. Donc ça, c'est la réponse normale, la protestation de la Corée du Nord par rapport à ces exercices qui sont faits dans des eaux territoriales très proches de sa frontière. Et puis deuxièmement, et ça c'est peut-être un peu nouveau, ce lancement de missiles montre une évolution un petit peu dans les missiles eux-mêmes. C'est vrai que là, ils sont en train de tester les Pulguksang 2, les missiles sol-sol de moyenne et longue portée, à combustion solide. Et donc, ça veut dire que la détection est plus difficile avant-hier. Ça montre la position de la Corée du Nord face à un projet en Corée du Sud d'installation d'un système THAAD, THA-2AD, donc un système de défense antimissile installé par les Américains en Corée du Sud.
Mais finalement, on reste un peu sur le schéma d'un équilibre de la terreur qui finalement laisse présager plus d'un gel de la situation avec des rapports de force à peu près équilibrés plutôt que d'un embrasement généralisé.
Oui, comme d'habitude, ces lancements de missiles, bon, pour l'instant, n'ont pas fait de victimes. Donc, c'est clairement pas une visée terroriste pour tuer des gens, etc. Donc, c'est vraiment dans le contexte de la démonstration de force. Ça, c'est certain. C'est récurrent, puisque à chaque exercice conjoint militaire sud-coréen-américain, donc il y en a. Il y en a eu 24 l'année dernière. Enfin, chaque année, ce qui est un petit peu nouveau, donc c'est éventuellement l'évolution technologique de certains missiles. Pour les Américains, c'est jugé comme une menace très solide. Évidemment, plus le niveau technique de ces missiles se perfectionne, plus la menace est sensible, bien sûr. Mais en même temps, ça permet de justifier l'installation donc de ce bouclier antimissile pour les Américains donc sur le sol sud-coréen.
Quelle est la position de la Chine dans tous ces événements? Est-ce que c'est une puissance modératrice qui permet d'éviter un embrasement ou est-ce qu'au contraire, elle sert de rempart et elle sécurise les dirigeants nord-coréens dans leur doctrine militaire dure?
Alors, on a constaté la semaine dernière qu'une invitation du numéro 2 ou numéro 3 des affaires étrangères nord-coréens en Chine pour rappeler justement l'alliance sino-nord-coréenne. Et ils ont des positions tout à fait semblables contre donc l'installation du bouclier antimissile THAAD en Corée du Sud. C'est jugé comme une atteinte à la sûreté de la Chine. Et puis bien sûr, c'était intolérable pour les Nord-Coréens. Donc ça, de ce point de vue-là, la Chine a montré clairement donc sa position pro-nord-coréenne. Et elle a également laissé se propager en Chine un sentiment anti-coréen du Sud pour protester contre l'installation donc du bouclier antimissile en Corée du Sud.
On présente souvent la Chine comme le seul véritable allié de la Corée du Nord. Est-ce qu'il y a d'autres nations en Asie au-delà avec lesquelles elle a des relations régulières?
Alors il y avait bien sûr au Cambodge une amitié avec Sihanouk qui avait duré longtemps. Plus largement dans le monde, avec les pays non alignés, les plus pauvres, traditionnellement, il y avait des liens assez forts avec la Corée du Nord. Actuellement, c'est moins évident. Pour l'instant, pour cette question de sécurité, en tout cas, l'allié principal de la Corée du Nord reste la Chine. Même si la Chine a pu condamner tout de même la Corée du Nord et a pris des mesures récemment contre la Corée du Nord, notamment en annonçant la cessation d'importation du charbon nord-coréen et en appuyant les dernières sanctions onusiennes contre la Corée du Nord. Donc la Chine peut avoir deux discours concernant la Corée du Nord, mais il n'en reste pas moins que cette Corée du Nord est quand même soutenue par la Chine pour ce qui est du dossier sécurité.
Est-ce qu'on a quelques idées sur la nature de l'entourage de Kim Jong-un ? Est-ce qu'il y a des personnalités, par exemple, plus ouvertes qui seraient prêtes à parier sur une ouverture un peu à la chinoise ? Ou est-ce qu'on est vraiment dans une dictature totalement homogène à tous les niveaux de l'entourage du président nord-coréen ?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'à Pyongyang, autour donc du grand leader et de ses proches, il y a toute une classe de la population plutôt favorisée et qui n'aurait pas très envie de changer de système. En fait, là, la vie est belle, entre guillemets, donc ça ne pousse pas grand monde à changer. En revanche, les attaques répétées du leader contre des personnages haut placés, et en particulier là, dans la famille, il y avait son oncle, etc., qui avait déjà été éliminé, donc là, son frère aîné. Là, ça fait quand même peur et on constate une fuite des élites nord-coréennes à l'extérieur du pays. Donc il peut y avoir une usure à la tête de l'État, mais pour l'instant, la volonté d'ouverture, en tout cas, est peut-être possible chez certains militaires qui sont à la tête d'entreprises, finalement, et qui sont des commerçants et qui aimeraient peut-être ouvrir plus avec la Chine, mais avec les sanctions, notamment, etc., le commerce est difficile. Donc peut-être qu'effectivement, certains Nord-Coréens aimeraient plus de libéralisme en Corée du Nord et certains non moins de dictature. Mais pour l'instant, le système est encore très bien verrouillé. Et la menace que fait planer le reste du monde sur la Corée du Nord, même si c'est l'inverse de quand on voit de notre point de vue à nous, eh bien permet de consolider le régime en place en Corée du Nord.
Un entretien réalisé par Cyprien Biette.